Dans le chapitre 9 du livre du Deutéronome, Moïse rappelle à la nouvelle génération l'incident du veau d'or qui valut à Israël un terrible jugement. L'idée n'est pas d'enfoncer le couteau dans la plaie, mais de rendre le peuple humble et obéissant. Je continue le texte. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, au point de vouloir le détruire. Et j'ai aussi prié pour Aaron. Quant à l'objet de votre péché, ce veau que vous aviez fabriqué, je l'ai pris et je l'ai jeté au feu. Je l'ai mis entièrement en pièces, puis je l'ai broyé jusqu'à le réduire en poussière, et j'ai dispersé cette poussière dans le torrent qui descend de la montagne. À Tabéra, à Massa, à Kibros, à Tava, vous avez continuellement provoqué la colère de l'Éternel. Lorsque l'Éternel voulut vous faire quitter Kadesh Barnéa, il vous a commandé, « Allez-y, prenez possession du pays que je vous ai donné, mais vous avez désobéi à l'Éternel votre Dieu. Vous n'avez pas eu confiance en lui et vous ne l'avez pas écouté. » Depuis que je vous connais, vous êtes désobéissant à l'Éternel. Versets 20 à 24. Aaron, le futur grand prêtre, avait dû obéir au peuple qui menaçait sa vie. Cependant, Dieu le tenait pour coupable dans cette affaire et il a eu la vie sauve grâce à l'intercession de son frère Moïse, qui continue son récit en rappelant que la rébellion d'Israël était pour ainsi dire leur seconde nature. L'adoration du veau d'or n'a pas été un accident de parcours dans la vie du peuple. L'esprit de rébellion était profondément enraciné en lui. À Tabéra, ils ont murmuré contre Dieu à cause de la fatigue du voyage. À Massa, ils se sont révoltés à cause du manque d'eau. À Kibroth Hattaava, ils ont méprisé la manne et voulaient absolument manger de la viande. À Kadesh, ce fut le comble. L'explosion d'incrédulité la plus grave et un acte de rébellion à main levée contre Dieu au point où le peuple a essayé d'assassiner Moïse, Aaron et ceux qui restaient fidèles à l'Éternel. Finalement, la conclusion du récit de Moïse est sans appel. « Depuis que je vous connais, vous êtes désobéissant à l'Éternel. » Voilà bien l'état spirituel et moral d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Cette conduite rebelle se poursuivra au fil des siècles jusqu'à la grande diaspora, l'exil final qui dispersera les Juifs dans le monde entier. Puis il y aura les pogroms et les fours crématoires du XXe siècle. Je termine ce chapitre avec l'intercession de Moïse en faveur du peuple. Je me suis donc effondré devant l'Éternel et je suis resté prosterné devant lui pendant 40 jours et 40 nuits, car il parlait de vous détruire. Verset 25. Moïse ne plaida pas sa cause personnelle, mais celle de la gloire de Dieu qu'il ne voulait pas voir compromise aux yeux des nations. Dans tout ce passage, l'histoire des infidélités d'Israël contraste avec celle de la générosité de l'Éternel, ce qui démontre bien que tout ce que le peuple reçoit de Dieu en bénédiction est pure grâce. Ceci nous conduit au chapitre 10 que je commence à lire. Alors l'Éternel m'a dit, taille-toi deux tablettes de pierre pareilles aux premières et viens me trouver sur la montagne. Tu fabriqueras aussi un coffre en bois, j'inscrirai sur les tablettes les paroles qui étaient gravées sur les premières que tu as brisées, et tu les déposeras dans le coffre. Versets 1 à 2. C'est la deuxième fois que la loi est donnée à Moïse sur des tablettes de pierre, suite à quoi Israël a repris son voyage en direction de la terre promise. Je continue plus loin. C'est à cette époque que l'Éternel choisit la tribu de Lévi pour porter le coffre de l'Alliance de l'Éternel et se tenir en sa présence, pour être à son service et pour bénir le peuple en son nom comme elle l'a fait jusqu'à ce jour. C'est pour cela que la tribu de Lévi n'a reçu ni part ni patrimoine foncier comme ses tribus sœurs. C'est l'Éternel ton Dieu qui est son patrimoine comme il le lui a promis. versets 8 et 9. Cette parenthèse vise à souligner l'importance pour Israël d'être doté d'une classe sacerdotale légitime qui est l'autorité accordée par l'Éternel de faire l'expiation des fautes du peuple au moyen des sacrifices d'animaux, précurseurs de la croix du Christ. Il est intéressant de remarquer que la tribu de Lévi, dont étaient issus les prêtres, ne possédait pas de patrimoine en Palestine. Ils sont une image des chrétiens actuels à qui Dieu n'a pas non plus promis de bénédiction temporelle. En effet, selon l'Évangile, c'est dans le royaume des cieux que se trouve l'héritage éternel du croyant en Jésus-Christ et non sur terre. Je continue le texte un peu plus loin. « Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu ? Simplement que tu le révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. » Versets 12 et 13. Le sommaire de ce discours, qui est aussi la conclusion tirée de tout ce qui précède, est qu'un Dieu qui a tant pardonné à un peuple si rebelle doit être aimé du fond du cœur et obéit avec toute sa volonté et son intelligence, non de manière servile, mais comme le ferait un fils. Je continue plus loin. Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur, et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. Verset 16. La circoncision du cœur évoque l'allégeance à l'Éternel du tréfonds de son être. Elle souligne la nécessité de la transformation intérieure, ce qui va bien au-delà de la conformité extérieure au rite de la loi ou à une morale. Lorsque cette circoncision du cœur est commandée aux Israélites, il leur est demandé un acte de repentance. Lorsque, par contre, elle est présentée comme une œuvre de l'Éternel, alors il s'agit de la régénération intérieure opérée par le Saint-Esprit, qui est aussi appelée la nouvelle naissance dans le Nouveau Testament. Je finis ce chapitre. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des Seigneurs, le grand Dieu puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et qui ne se laisse pas corrompre par des présents. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Vous aussi, vous aimerez l'étranger parmi vous, car vous avez été étranger en Égypte. C'est l'Éternel, ton Dieu, que tu révéreras, c'est à lui que tu rendras un culte, à lui seul que tu t'attacheras, et si tu prêtes serment, c'est par son nom que tu le feras. Versets 17 à 20. Seul le Dieu d'Israël est grand et digne d'adoration en parole, en acte et en affection. Si l'Éternel a une préférence, c'est pour les plus faibles. Il l'a démontré à Israël en le délivrant de son état de servitude en Égypte. Maintenant, les Hébreux sont tenus d'imiter sa miséricorde en usant de bonté envers les étrangers qui habitent avec eux. Nous voici arrivés au chapitre 11, dans lequel Moïse énumère pour la génération montante, qui n'en a pas été témoin, les quatre principaux moyens par lesquels l'Éternel a éduqué son peuple. D'abord les 10 plaies d'Égypte, ensuite la traversée de la mer Rouge, puis la marche dans le désert, et finalement le châtiment des rebelles. Le rappel de ces événements souligne combien il est important pour Israël d'adopter une attitude de confiance et d'obéissance envers son Dieu. Je commence à lire en compressant. « Tu aimeras donc l'Éternel ton Dieu » et tu obéiras en tout temps à ce qu'il t'a ordonné, à ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Obéissez donc à tous les commandements que je vous ai prescrits. Aujourd'hui, alors vous serez forts et vous pourrez conquérir le pays dans lequel vous êtes sur le point d'entrer pour en prendre possession et vous prolongerez vos jours sur la terre ruisselant de lait et de miel, que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres et à toute leur descendance. Versets 1 et 8 à 9. Une nouvelle fois, Moïse répète que le succès militaire et le bonheur d'Israël sont directement liés à leur obéissance à l'Éternel. Cette rengaine incessante peut a priori surprendre, mais, à y réfléchir, c'est un moyen pédagogique incontournable pour des gens qui, par nature, sont peu dociles. Les parents qui prennent à cœur l'éducation de leurs enfants font de même avec eux. Je continue. Le pays où tu vas pénétrer pour en prendre possession ne ressemble pas à l'Égypte d'où vous êtes sortis. Là-bas, après avoir fait vos semailles, vous deviez irriguer vos champs en actionnant des norias avec vos pieds comme dans un jardin potager. Par contre, le pays où vous vous rendez pour en prendre possession est un pays de montagnes et de vallées arrosées par la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend lui-même soin et sur lequel il veille continuellement du début à la fin de l'année. Si vous obéissez au commandement que je vous donne aujourd'hui en aimant l'Éternel votre Dieu et en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être, je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie de printemps, et vous aurez de belles récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile. Je ferai croître l'herbe dans vos prés pour votre bétail et vous mangerez à satiété. Versets 10 à 15. L'Égypte est en effet un pays plat et peu arrosé qui nécessitait l'irrigation de ses terres cultivables soit naturellement par les crues du Nil, soit artificiellement. On utilisait pour cela des roues qu'un homme faisait tourner par le mouvement de ses pieds en montant successivement sur divers degrés à l'intérieur de la roue. C'est ainsi que l'eau était pompée dans des rigoles qui alimentaient les semailles. Il n'en sera pas ainsi en Palestine. Par sa nature même, le pays de Canaan était riche, mais plaçait aussi Israël dans un état de dépendance continuelle vis-à-vis de l'Éternel. Si l'eau du ciel, que personne ne peut commander, venait à manquer, tout périssait. La fertilité du sol dépendait des deux saisons de pluie, en automne pour préparer la terre et au printemps pour gonfler le grain. La quantité des récoltes engrangées sera un thermomètre de la spiritualité d'Israël. L'abondance sera un signe de la bénédiction divine, elle-même indicatrice du degré d'obéissance du peuple aux ordonnances de l'Éternel. Ainsi, en regardant l'état du pays, le voyageur connaissait par là même la condition spirituelle des Israélites. On pouvait ainsi savoir d'un simple coup d'œil s'ils vénéraient leur Dieu ou s'ils étaient tombés dans l'idolâtrie. La tentation sera grande pour Israël de vénérer l'idole Baal, considéré comme le dieu de l'orage et donc le maître de la pluie, garant de la fertilité du sol. Je continue plus loin. Car si vraiment vous obéissez à tous ces commandements que je vous ordonne d'appliquer en aimant l'Éternel votre Dieu, en suivant tous les chemins qu'il vous a prescrits et en vous attachant à lui, il dépossédera en votre faveur toutes ces nations et vous prendrez possession du territoire de peuples plus grands et plus puissants que vous. Écoutez, je propose aujourd'hui à votre choix la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, ceux que je vous donne aujourd'hui. Versets 22 à 23. Toute la création appartient à l'Éternel qui en fait comme bon lui semble et qui donne une patrie à qui il veut. Les limites du pays promis étaient la Méditerranée à l'ouest, le Jourdain à l'est, bien que deux tribus et demi se soient établies de l'autre côté de cette rivière. Le Wadi El Arish, aussi appelé torrent d'Égypte, était la limite au sud et se trouve aujourd'hui à l'intérieur de la bande de Gaza. L'Euphrate, loin au nord de Beyrouth, dans le Liban actuel, était cette limite extrême. Dieu a donc décidé de donner ce territoire vaste aux Israélites. Cependant, le tour n'est pas joué. Le peuple ne pourra jamais dormir sur ses lauriers. Le bénéfice de l'alliance entre Dieu et Israël ne sera jamais acquis une fois pour toutes, mais sera fonction de la fidélité d'Israël à son Dieu. On revient toujours à la même chose. La bénédiction n'est accordée qu'en fonction de l'obéissance d'Israël à la loi divine. C'est vrai que ce n'est pas en suivant des règles morales ou religieuses que je vais obtenir des bons points devant Dieu, puisque le salut est entièrement par grâce. Cependant, même si l'Éternel est miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, cela ne l'empêche pas d'exiger l'obéissance de la part de ses créatures, que ce soit les Israélites ou moi. Je continue et termine ce chapitre. La bénédiction si vous obéissez ou la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu. Et si vous vous écartez de la voie que je vous trace moi-même aujourd'hui pour vous rallier à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Quand l'Éternel votre Dieu vous aura fait entrer dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession, vous prononcerez la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Versets 28 et 29. Dieu plaide avec insistance auprès d'Israël afin qu'il se montre obéissant et ne tombe pas dans l'idolâtrie. La meilleure manière d'imprimer les malédictions et les bénédictions dans le cœur du peuple était de les lui faire proclamer solennellement sur les sommets de deux montagnes très abruptes se trouvant au centre du pays que Dieu lui donnait. Celles-ci deviendront en quelque sorte les témoins des promesses et des menaces de l'Éternel. Les monts Garizim et Ébal sont situés en face l'un de l'autre, à l'entrée de la vallée où se trouve aujourd'hui la ville de Naplouse, bâtie sur les vestiges de l'ancienne cité de Sichem, détruite par les Romains. Nous voici arrivés au chapitre 12. Les discours précédents représentaient les dispositions fondamentales et générales de l'Alliance. C'étaient de véritables prédications sur les grands principes de la vie religieuse d'Israël que sont la foi, l'amour et la fidélité à l'Éternel. Nous entrons maintenant dans les stipulations spécifiques. Je commence à lire. Voici les ordonnances et les lois auxquelles vous obéirez et que vous appliquerez dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous donne en possession aussi longtemps que vous y vivrez. Vous ferez totalement disparaître tous les lieux où les nations que vous allez chasser ont adoré leur Dieu, sur les sommets des hautes montagnes et des collines et sous tout arbre verdoyant. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs stèles sacrées, vous brûlerez leurs pieux sacrés, vous mettrez en pièces les idoles de leurs dieux et vous effacerez leurs souvenirs de cette contrée. Vous agirez tout autrement à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Verset 24. Les cultes cananéens de type animiste avaient lieu en plein air. Ils ne construisaient pas de temple. La tendance naturelle de tous les peuples anciens et modernes est de rechercher comme lieu de culte les endroits les plus rapprochés du ciel. Les Cananéens affectionnaient particulièrement les arbres verdoyants, surtout les feuillus, car pour eux, ils symbolisaient la vie. Aujourd'hui, sous nos tropiques, personne ou presque ne songerait à de tels actes d'adoration. Cependant, selon l'enseignement des Écritures, tout ce qui s'interpose entre le Créateur et la vénération que je lui dois est une idole qui demande à être extirpée. Je continue le texte. L'Éternel, votre Dieu, choisira un lieu au milieu des territoires de toutes vos tribus pour y établir sa présence et pour en faire sa demeure. C'est là seulement que vous irez l'invoquer. Verset 5. Contrairement aux Cananéens et selon l'ordre de l'Éternel, il n'y aura qu'un seul lieu de culte pour toutes les tribus d'Israël. Il variera selon les époques, mais éventuellement, ce sera bien sûr Jérusalem. Sous le régime de la Nouvelle Alliance, les croyants en Jésus-Christ peuvent aller où bon leur semble, même au sommet d'une montagne ou sous un arbre, parce que l'adoration du Seigneur ne dépend pas de l'endroit, mais de l'attitude du cœur. Jésus avait annoncé d'avance ce changement de régime à la femme samaritaine. Je cite le passage. « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent par l'Esprit et en vérité. » Fin de citation. Ce qui compte, ce n'est pas le lieu, mais la raison du culte. Aujourd'hui, les chrétiens se rassemblent pour célébrer la personne du Christ. Et c'est vraiment cela qui compte. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.